Avec Phare FM Haguenau Wissembourg, nous sommes au jardin écologique de Monsieur Heim à Obersteinbach. Il est à l'origine de sa micro-entreprise, Hyménoptera. Il nous parle de sa passion et de son combat, encourager tout le monde à restituer son jardin à la nature. On l'écoute. Monsieur Heim, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Heim, vous avez une micro-entreprise pas comme les autres, je vous laisse en parler.
Oui, avec plaisir. J'ai créé une micro-entreprise qui s'appelle Hyménoptera, donc sur la base d'une vitrine pédagogique. Donc, c'est un jardin que j'ai créé il y a 5 ans qui est dédié aux hyménoptères, parce que Hyménoptera est un ordre de classification en entomologie qui comprend les abeilles, les bourdons, les guêpes, les fourmis, et le jardin leur est dédié. Et comme nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes volants ces dernières années, c'est dramatique. Ça me met très très mal à l'aise parce que figurez-vous que je suis en contact avec les insectes depuis l'âge de 4 ans, tous les jours. Et donc forcément j'ai vu cette régression très forte de tous ces animaux, de la biodiversité en général. Et je ne peux m'empêcher de bondir face à cet état de fait parce que la disparition des insectes n'est pas une fatalité, des solutions existent. Le problème, ce sont les mauvais comportements qui persistent. Et aujourd'hui, le moindre centimètre carré de parcelle est exploité. C'est de la folie, on ne peut pas continuer comme ça.
Alors expliquez-nous, quels sont les insectes nécessaires dans un jardin ?
Ah bien, je dirais tous les insectes. Tous les insectes sont nécessaires, même les nuisibles, qui ne deviennent nuisibles que dans le cadre d'un excès. Et cet excès, souvent, est favorisé par l'homme avec les monocultures. Donc, évidemment, si on met des haricots sur une seule parcelle, on va obtenir une armée de pucerons noirs. Si on ne fait que des monocultures de maïs, on va obtenir une armée de thrips. Et par contre, pas d'abeilles, puisque les abeilles ne peuvent même pas butiner, trouver de quoi manger dans les champs de maïs. Donc, ce sont les monocultures. Alors, moi, je propose la polyculture, de la complexité au jardin. Donc, pour accueillir la biodiversité, que faut-il ? Des capacités de cachette. Donc des haies d'essence locale et non pas ces haies de thuya ou de forsythia qu'on voit un peu partout, les haies classiques, on va dire, des jardins classiques. Non, des haies d'essence locale. Donc je propose carrément, osons le dire, des ronciers, de l'églantier, de la bourdaine, du sureau, du noisetier, du prunelier. Ces types de plantes vont permettre aux animaux de se cacher et de se nourrir. Donc des capacités de cachette. Le bois mort également, qui est un excellent vivier parce qu'il nourrit potentiellement 1400 espèces d'invertébrés et 1500 espèces de champignons. Et les tas de pierres qui vont pouvoir capter la chaleur et la restituer, donc les animaux adorent. Les guêpes maçonnes vont pouvoir faire leur nid, à condition que ce ne soit pas cimenté, il faut des murets de pierres sèches ou des tours de pierre. Les musaraignes également, les lézards, les ourvets affectionnent ce type d'endroit. L'herbe haute aussi, très important, les graminées ne sont pas respectées. Beaucoup de chenilles, donc de très beaux papillons, ont besoin de graminées pour se nourrir. Les araignées ont besoin d'herbe haute pour tisser leur toile. Et l'ourvet également est en danger quand les sols sont nus ou quand tout est tondu à ras, parce qu'il a énormément de prédateurs. Ensuite, pour parler un petit peu de la ronce, la ronce, c'est une haie anti-franchissement très efficace. On peut la faire pousser dans un tas de branches, tout simplement, comme je l'ai fait chez moi. Partout, j'ai des tas de branchages, parce que le troglodyte mignon fait son nid. Énormément de salamandres, de tritons, de grenouilles, de crapauds sont en dessous, au niveau inférieur, dans ces branchages. Énormément d'insectes aussi. Et les chauves-souris adorent chasser au-dessus de ces tas de branchages, lorsque les insectes nocturnes, qui ont passé leur quartier du jour là-dedans, ils vont sortir pour butiner la nuit, ou pour se reproduire, tout simplement. Les chauves-souris passent, et puis elles vont réguler tout ce monde-là. Donc la ronce est importante parce qu'elle va nourrir potentiellement 70 espèces d'insectes. Le framboisier sauvage, 55. Et n'oublions pas l'ortie, l'ortie qui est divine. Je la considère comme une plante potagère à part entière. Nous la cultivons dans des buttes lasagne, un mélange de paille avec de la fiente de poule, de la matière fraîche, du fumier. Donc l'ortie exige de la matière fraîche. Elle dépérit au bout de 3 ans s'il n'y a plus de matière fraîche parce que son rôle est justement d'absorber les excès de nutriments, d'azote notamment et de fer. Et l'ortie attire 120 espèces d'insectes au minimum, et on fait beaucoup plus si on prend compte ceux qui en profitent directement ou indirectement. Donc, pour les papillons également, si vous voulez des papillons au jardin, il faut planter de l'ortie dans des buttes lasagne. À chaque fin de cycle, vous remettez du fumier dessus, les orties vont continuellement pousser dans les endroits qui leur seront dédiés, et elles vont nourrir une quarantaine d'espèces de chenilles qui ne mangent que la feuille de l'ortie.
Prévoir un jardin avec toute cette biodiversité donne l'impression que ça fait énormément de travail.
Non, justement, le jardin est basé sur la beauté sauvage et le laisser faire. Donc, on ne se presse pas trop. Moins vous vous pressez, moins vous travaillez au jardin, plus vous serez remercié par la biodiversité. Alors, je ne vous dis pas de vous laisser envahir. Non, il n'est pas question de ça. Il faut quand même de l'entretien, mais avec de la complexité et de la beauté sauvage. Il faut vraiment se baser sur le laisser faire et surtout respecter des bandes herbeuses hautes, dont certaines bandes qui ne sont jamais fauchées. Ou alors, si vous le faites, faites-le que tous les deux ans, parce que beaucoup d'insectes ont besoin d'une année entière pour établir leur cycle entier.
C'est sur Phare FM à Guéno-Wissembourg que Sébastien Heim nous emmène du côté de son jardin Hyménoptera, un magnifique jardin écologique. Monsieur Heim jardine avec les insectes et ça donne un jardin fabuleux avec une diversité inimaginable de plantes. Mais allez, tout de suite, on va continuer notre visite. Ici, Monsieur Heim, pas de jardin bien rangé comme chez moi, mais plusieurs sortes de parcelles.
Oui, alors, d'entrée, je le dis tout de suite et j'insiste lourdement sur ce point. Les jardins propres sont impropres à la vie, d'accord ? Donc, nous avons des monticules de sable et de leus et de terre un peu partout parce que les abeilles et les guêpes fouisseuses vont pouvoir nicher dedans. Il faut savoir que les hôtels à insectes sont efficaces pour 30% des espèces, mais les 70% autres exigent du sable ou du leus pour pouvoir nicher. Donc, elles sont fouisseuses. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas. Ensuite, il faut de la nourriture. Donc, nous avons des zones maigres. Des zones maigres, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des substrats de culture confectionnés avec du sable pour béton en couches très épaisses, avec un lit de tuiles en dessous pour effectuer un bon drainage, et simplement un peu de paillage minéral au-dessus, ce qui permet de cultiver 1300 espèces de plantes, de fleurs locales pour les papillons et les abeilles. Donc, j'appelle ça l'open bar des butineurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces plantes ont horreur de la concurrence. Lorsque les sols sont amendés en nutriments ou en engrais, en compost, l'herbe va commencer à pousser et l'herbe pousse de façon agressive et donc elle empêche beaucoup de plantes d'évoluer, qui ne supportent pas la concurrence ou qui peuvent tout simplement plus se ressemer. Donc les zones maigres sont très importantes pour les butineurs. Les zones refuges sont importantes pour certains stades de leur cycle. Énormément d'oiseaux ont besoin de haies. Énormément d'hyménoptères, donc de guêpes et d'abeilles, sont ultra spécialisés. Par exemple, nous avons la mylite noire, qui est une petite abeille qui ne peut butiner qu'une seule espèce de plante, à savoir la salicaire des zones humides. Nous avons d'autres espèces qui ne vont que sur les achillées ou que sur les tanaisies. Et ensuite, nous avons une guêpe du genre Cerceris, qui ne chasse que des charançons. Mais pour avoir des charançons, par exemple, il faut de l'ortie ou alors il faut encore des noisetiers. Vous voyez, donc toute cette complexité fait que toute une chaîne se met en place. Mmh. Et ensuite, on n'utilise pas de tondeuse, elle est à bannir du jardin. Nous, on utilise la faux pour les petites surfaces et la motofaucheuse pour les grandes surfaces. C'est une barre de coupe avec un seul point de coupe, donc l'herbe haute, elle verse. Évidemment, avec un seul point de coupe, on ne tue que très peu d'animaux, alors que la tondeuse est une hélice qui broie absolument tout sur son passage et qui aspire les animaux même du sol. Et donc, ça fait des dégâts énormes, on détruit 80% de la faune présente lors du passage.
En matière d'arrosage, surtout durant nos étés caniculaires, comment ça se passe quand on a autant de plantes ?
Eh bien, je vais vous répondre, c'est très facile, il suffit de ne pas arroser. Donc, oui, absolument. Les légumes, on les cultive dans des buts lasagnes, un mélange de feuilles mortes et de tondes de gazon. Évidemment, comme je ne tombe pas, je la cherche chez les voisins. Donc de la paille, du foin également, les déchets de coupe du jardin. On mélange un peu tout ça, on laisse se décomposer tout ça en automne et au printemps, on peut planter dedans. Alors que va-t-il se passer ? Évidemment, le sol il va toujours être souple sous l'action des décomposeurs. Ensuite, on n'a pas besoin de bêcher. Jamais, donc on ne crée pas de désordre. Ensuite, comme après la plantation, quand les racines sont bien installées, après un mois d'arrosage, on n'a plus besoin d'arroser du tout parce que le substrat il reste toujours humide. Donc vous arrosez 3, 4, allez 5 fois maximum au courant du premier mois. Et quand les racines sont bien en profondeur, vous n'avez plus besoin d'arroser. Ça, c'est pour le cas des légumes. Ensuite, évidemment, on ne désherbe pas. Hein, parce qu'à chaque fin de cycle, on recouvre à chaque fois avec ces matières, donc l'herbe ne pourra pas envahir votre parcelle de culture. Pour le cas des zones maigres, les open bars des butineurs, je vais vous surprendre, nous sélectionnons des plantes qui résistent au sec et qui sont très mellifères, hein, donc qui attirent beaucoup les nectarifères et pollinifères, qui attirent beaucoup les butineurs. Elles résistent au sec et n'ont pas besoin d'être arrosées. Jamais, parce qu'il y a toujours une litière de tuiles concassée en dessous et la tuile en hiver va drainer l'excédent en eau. Mais en été, grâce à ses capacités, à ses qualités mécaniques, puisqu'elle est poreuse, elle va retenir l'humidité un petit peu. Et ça permet vraiment d'avoir de superbes fleurs sans arrosage. J'insiste, je n'arrose jamais mes fleurs. Jamais, je n'en ai pas besoin. Et en plus, elle se ressème, toute seule. Un jardin qui bouge tout le temps.
Avec Phare FM à Genève-Wissembourg, nous sommes au jardin écologique pédagogique de Sébastien Heim à Obersteinbach, suite de la visite guidée. Alors en été, quand je vais dans les Alpes, on rencontre des cairns. Mais des cairns, ces petits monticules de pierre, il y en a aussi dans votre jardin. Comment ça se fait ?
Oui, voilà, parce que les cairns, en fait, ça rappelle un peu les murets en pierre sèche des anciens. Les anciens qui faisaient très bien, puisqu'ils évoluaient avec la nature, ils l'observaient, ils composaient avec. Aujourd'hui, ça a été perdu, malheureusement. Donc, je me demande même pourquoi, en passant. Et ces tours de pierre sont très utiles. Elles sont déjà magnifiques, parce qu'elles offrent une superbe dimension décorative au jardin. Je ne pourrais plus imaginer le jardin sans. Ensuite, elles accumulent la chaleur, ça plaît beaucoup aux insectes. Et évidemment, quand ce n'est pas lié avec du ciment, il y a énormément d'interstices, donc des capacités de cachette, encore une fois. Alors les chenilles vont se chrysalider dedans, avant de devenir un papillon. Les guêpes maçonnes qui capturent les chenilles, d'autres qui vont capturer des araignées ou des pucerons, vont pouvoir faire leur nid avec de la boue dans ces tours de pierre. Il y a également l'ourvée qui peut passer la nuit ou la journée dedans. La musaraigne aussi, la musaraigne qui est très utile. Ce n'est pas un rongeur, hein, c'est un insectivore et mollusivore qui mange 2,5 fois son propre poids par jour. D'accord. Voilà, donc très goulu comme animal, donc très utile puisqu'il dévore évidemment limaces, escargots et d'autres insectes. Et les vers aussi. D'accord. Ce sont des régulateurs. Personne n'est mauvais, personne n'est bon. On cherche, la nature est toujours en quête d'équilibre. Une balance perpétuelle.
D'accord. Alors supposons qu'on a plein d'escargots. Supposons, moi j'ai une période, il y a 2 ans, où je les ai comptés, j'en avais presque 100. Escargots et limaces.
Oui, alors longtemps je me suis battu contre les limaces. En fait, les escargots ne font presque pas de dégâts déjà. Mais par contre, les limaces,
les
oui. Les limaces, c'est pire. Les limaces, c'est vraiment terrible. L'ennemi principal du maraîchage, c'est la limace. La limace, elle est là pourquoi ? Elle a son rôle, c'est celui de décomposer la matière organique. Elle décompose la matière organique, mais elle transporte aussi les spores des champignons, donc elle a son rôle à jouer et elle fertilise les sols, ce faisant. Si elle ne décomposait pas les matières organiques, vous auriez énormément de problèmes au jardin. Le problème, le souci, c'est toujours l'excès. Quand un jardin est en déséquilibre, évidemment, vous allez peut-être avoir les bonnes conditions, les conditions favorables pour la limace, et bien vous les aurez en excès. Et donc, ça m'est arrivé cette année. Donc, je vais leur donner une réponse toute simple. Je vais mettre des canards Kaki Campbell ou coureurs indiens, des canards qui ne volent pas. Et au printemps, ils vont me nettoyer tout le jardin de ces limaces pour les réguler et je pourrai cultiver tranquillement mes laitues après. Ensuite, évidemment, mes buttes lasagnes que j'évoquais avant, ok, je ne bêche pas, je n'arrose pas, je ne désherbe pas, mais elles ont un inconvénient majeur, elles favorisent ces décomposeurs, justement, les limaces qui pondent dedans et qui trouvent une litière favorable. C'est pour ça qu'il me faut les canards pour essayer de composer avec tout ce monde. Mais j'ai décidé de ne plus les détruire moi-même parce qu'en fait, elles ont leur utilité. Je pense qu'il faut laisser 20-25% de sa production aux animaux. Hein. Si vous perdez plus que 50%, c'est qu'il y a un problème. Là, il faut trouver une réponse. Hein. Mm-hmm. Voilà. Tout ça, c'est important. Il n'y a personne de mauvais. Ni le puceron, ni la limace, ni les escargots ne sont mauvais. C'est l'excès qui est dangereux. C'est tout.
D'accord. Alors, dites-nous juste à quoi un puceron peut servir vraiment. Comment ça peut être positif d'avoir des pucerons?
Ah oui, alors vous voyez, les fourmis par exemple sont très utiles. Beaucoup d'espèces disséminent les graines, d'autres chassent les insectes et participent donc à cette régulation qui est importante dans la nature. Et les fourmis, évidemment, pour booster leur cheptel, elles ont besoin de sucre qui vient des pucerons. Donc c'est pour ça qu'elles protègent les pucerons et qu'elles se nourrissent du miel-là. Pareil, les abeilles, si vous voulez, un miel de sapin, elles prélèvent le miel-là des pucerons. Donc si vous voulez, le miel de sapin, ce ne sont que des déjections de pucerons qui sont transformées avec des réactions enzymatiques dans l'estomac de l'abeille pour donner ce miel. Fantastique d'ailleurs, très bon miel.
D'accord. Alors j'ai une question un peu perso. J'ai essayé de garder des coccinelles dans mon jardin, mais elles sont parties très très vite. Comment on fait ?
Elles sont parties très très vite parce que vous avez peut-être traité les pucerons ou pas contre les pucerons avec du savon ou pas ? Oui, il ne faut pas faire ça, parce que vous allez rentrer dans un cercle vicieux, c'est très connu. Hein. Donc en fait, le prédateur du puceron, il ne restera là toute l'année que si vous avez toujours du puceron au jardin. Si vous traitez, vous allez faire un creux dans le bol alimentaire, que ce soit chimique ou savon. Alors le savon de Marseille, au moins, il ne détruit pas les coccinelles, alors que l'insecticide n'est pas sélectif, même bio, hein, il détruit tout. Donc, le savon de Marseille, ok, on est soulagé sur le moment, vous allez dessécher tous les pucerons. Le problème, c'est qu'après, les chrysopes et les coccinelles, ben, elles n'auront plus rien à manger. Vous avez fait disparaître leur proie favorite. Donc, si vous faites ça, à chaque fois vous entrez dans un cercle vicieux, vous avez une baisse du bol alimentaire de ces animaux-là, ben, ils vont partir, ils vont aller ailleurs où ils vont trouver des pucerons. Et donc après, ben, le puceron il va en profiter pour faire quoi ? Ben, il va revenir en masse. Et donc après, il y a un temps d'attente pour que les coccinelles et les chrysopes reviennent. Et vous, entre-temps, vous constatez, oh, il y a de nouveau plein de pucerons, ben, vous remettez du savon, ben, les pucerons vont être détruits, évidemment, et les coccinelles vont partir. Et donc, ce n'est pas la bonne solution. Le désordre, un désordre organisé. C'est ça qu'il faut au jardin, de la complexité, et tout se fera tout seul. Alors évidemment, ce n'est pas toujours aussi facile, il y a toujours un peu de déséquilibre, toujours un peu de problèmes qui viennent, mais ça ne serait pas passionnant sinon.
Donc un mélange de fleurs, de légumes, de haies, tout ça pour...
Voilà, d'arbres fruitiers qu'il faut remettre au goût du jour absolument, parce que beaucoup trop de vergers ont été détruits ou ne sont plus entretenus. Et des troncs d'arbres morts qui doivent rester debout impérativement, parce que ce sont les meilleurs hôtels à insectes. Les arbres morts, les vieux arbres fruitiers fendus qui commencent à mourir et à se décomposer, il faut absolument les laisser. On coupe le houppier pour sécuriser, mais on laisse le tronc debout le plus longtemps possible. Parce que d'abord vont venir les insectes xylophages, ensuite vont venir les petits hyménoptères, donc des petites guêpes et des petites abeilles sauvages qui font que 2-3 mm hein, pour certaines, qui vont utiliser les petits trous laissés par les insectes xylophages, et ensuite viendront les pics, qui vont se servir des larves, des friandises qui se trouvent donc dans ce tronc, et des mousses qui vont se fixer, les mousses aussi, même sur les arbres vivants, les beaux arbres, il ne faut surtout pas acheter ces produits de anti-mousse, il ne faut pas brosser les arbres pour enlever la mousse, puisque beaucoup d'insectes vivent dedans, les mousses ne sont pas nuisibles à l'arbre, et les mésanges vont donc pouvoir grailler les insectes qui sont là-dedans et utiliser la mousse comme matière première pour la nidification, par exemple. Ensuite, des tas de compost partout aussi. Mettez des tas de matières organiques un peu partout, non pas dans un bac plastique qu'on appelle vulgairement composteur, mais laissez-les à l'air libre et mettez-en partout. Intelligemment placés, à l'ombre, d'autres au soleil. Pourquoi ? Parce que ça va attirer un nombre incroyable de décomposeurs. Mais ensuite viennent les prédateurs des décomposeurs. Et ensuite viennent les prédateurs des prédateurs et aussi leurs parasites qui viennent réguler tout ça. Et donc, vous avez là la base de toute une chaîne, la base d'une complexité. Donc, un jardin propre est impropre à la vie.
On entend aussi que les oiseaux disparaissent.
Oui, nous allons vers des printemps silencieux parce que 750 000 km de haies ont été arrachées à peu près. Bon, les estimations varient, mais on peut estimer cet ordre de grandeur-là. C'est absolument catastrophique et on continue. Hein. On ne peut pas continuer sur cette lancée-là parce que beaucoup d'oiseaux ont besoin de haies pour nicher déjà et pour se nourrir, mais les insectes aussi, les abeilles aussi, des haies composées mixtes comme on en avait partout au Moyen-Âge qui entouraient les parcelles. Elles sont très utiles aux abeilles, sont très utiles pour les oiseaux, elles sont très utiles pour les micro-mammifères, les amphibiens. Et n'oublions pas les mares aussi au jardin. Il faut une mare, voilà. Mais sans poissons. Parce que si vous mettez des poissons, comme tout le monde le fait quasiment, eh bien, les poissons vont manger vos têtards, vont manger les tritons, les larves des tritons et beaucoup d'insectes aussi.
C'est avec Phare FM Magnovis-Hambourg qu'on visite le très beau jardin de Sébastien Heim, Hyménoptera, un jardin écologique. Et c'est à Obersteinbach. Passionnément, M. Heim a créé sa propre micro-entreprise. Et il propose de vous initier au jardinage écologique.
Alors voilà, c'est très simple. Hyménoptera peut se visiter à Obersteinbach. Tous les samedis, tous les dimanches, c'est rendez-vous. On peut me trouver sur hyménoptera.fr. Donc le jardin est ouvert d'avril à octobre, mais j'insiste sur rendez-vous, hein, parce que sinon, je ne suis pas toujours là. Donc, vous risquez de tomber sur un os. Et puis, il faut que je puisse m'organiser aussi. Et ça, c'est pour le cadre de la vitrine pédagogique, afin que les gens puissent comprendre. Donc, des visites guidées de 1h30 à 2h. Ensuite, en printemps, je m'occupe de la création sur demande d'hôtels à insectes. D'hôtels à insectes viables, parce que malheureusement beaucoup sont mal conçus. Et ensuite, en automne, hiver, je conçois des biotopes pour les entreprises désireuses de restituer leurs parcelles à la nature. Je donne des coups de main aux agriculteurs qui aiment renouer et qui aimeraient renouer avec avec de bonnes pratiques, les particuliers également et évidemment les communes. Hein. J'ai déjà créé plusieurs open bars, par exemple, pour des entreprises ou pour des communes. Et ça, c'est un signal très positif. Voilà.
D'accord. Vous avez un site ?
le site hyménoptera.fr, donc hyménoptera comme l'ordre de classification en entomologie, hyménoptera.fr, et mon mail, c'est contact@hyménoptera.fr.
Alors, moi, j'ai mon petit jardin bien rangé, et pour changer tout ça, pour faire un peu comme vous expliquez, je commence par quoi ?
Ah, mais vous fonctionnez à l'instinct, ne réfléchissez pas trop, parce que sinon ça ne fonctionnera pas bien. Vous mettez un tas de compost que vous laissez dans un coin, vous mettez vos déchets dessus. Commencez donc à avoir vos propres poules, parce que là aussi vous allez faire de l'écologie, puisque les insecticides ne seront pas utilisés pour lutter contre les mouches par exemple, et vos œufs seront de meilleure qualité. Et bien sûr les poules ne souffriront pas, elles seront plutôt choyées. Hein. Plantez une haie sauvage, pour séparer le potager du reste du jardin d'agrément, et remplacer la pelouse par une zone maigre. Vous recouvrez l'ensemble par des 10 cm de tuiles concassées et plusieurs tonnes, donc pour avoir 20 à 30 cm de couche épaisse de sable, plusieurs tonnes de sable pour béton et ensuite 3 à 4 cm de broyat minéral par-dessus. À ne pas confondre avec les jardins japonais qui sont complètement stériles et un désastre environnemental. Vraiment un open bar pour les butineurs. Et puis je suis à disposition de tout le monde, évidemment, pour les conseils et pour entrer plus en profondeur dans la discipline.
Monsieur Haim, un mot pour les auditeurs ?
S'il vous plaît, aidez les insectes parce que seul, je n'y arriverai pas. Il nous reste à peu près 10 ans pour sauver tout ce qui peut l'être. Et je vous assure que je ne plaisante pas. Je me suis concerté avec beaucoup de naturalistes et plusieurs spécialistes, allemands ou français. Nous sommes quasiment tous unanimes. Il ne reste que très peu de temps. Rappelez-vous, il y a 20 ans, on avait encore le pare-brise et le pare-choc moucheté par des centaines, voire des milliers d'insectes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne bondissent pas, n'aient pas fait de sursaut pour essayer de comprendre et de contrecarrer tout ça. Donc vous avez un pouvoir énorme, vous les particuliers, s'il vous plaît, transformez votre jardin en sanctuaire parce que, comme je l'ai dit au début de ce reportage, aujourd'hui, si vous regardez partout autour de vous, le moindre centimètre carré est exploité et donc dénaturé, et ce n'est pas acceptable, on ne peut pas continuer ainsi.
Est-ce qu'il y a juste de l'espoir, les gens réagissent quand même, vous avez l'impression qu'il y a du monde qui réagit ?
Absolument, c'est la grande surprise pour moi. En fait, au début, je ne pensais pas que la mayonnaise prendrait, si je puis dire, aussi rapidement. Au contraire, beaucoup de gens qui découvrent Hyménoptera et qui viennent me rendre visite me renvoient des photos de leur propre réalisation au jardin. C'est un grand plaisir pour moi toujours de voir ça. Mais aussi, ils sont tous unanimes, ils me disent tous sans exception qu'ils ont beaucoup plus d'insectes au jardin après avoir suivi mes conseils, et ce, dès la première année. Et donc c'est très encourageant, en plus les communes et les entreprises qui demandent de l'aide pour faire ça, non je crois que c'est encouragé, par contre il faut aller vite. Et là je ne sais pas, donc, il faut aller très vite.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup, merci Monsieur Haim.
Restituer son jardin à la nature, des mots qui me restent gravés. Vous étiez en compagnie de Monsieur Haim de Hyménoptera. Vous avez envie de changer vos habitudes, jardiner autrement, redonner à la nature ses droits, adopter toutes sortes d'insectes dans votre jardin ? Monsieur Haim propose ses conseils, des visites guidées et il est prêt à répondre à toutes vos questions. Le jardin écologique de Monsieur Haim se trouve à Obersteinbach. Son adresse mail contact@hyménoptera.fr et son site hyménoptera.fr.